Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Eh bien, nous avons tout de même réussi à passer l'année. Hein. Bon, c'est vrai que ce début d'année recommence sur des bases assez insoupçonnées. Mais bon, on est déjà presque à la fin de la première semaine et on est encore vivant, c'est génial. Bon, donc bon vœu à tous, bonne année, 51 semaines formidables à venir. Et on aura plein d'émissions à vous proposer. Alors ce soir, c'est pas du tango, hein, c'est de l'écologie ce soir, parce que sachez que demain à la même heure, ce sera la première de Tango au cœur, la nouvelle émission de Radio Aligre. Mais ce soir, c'est retour de Bellem sur la COP30 avant et pour se préparer sur la COP31 qui aura lieu au moins dans des contrées plus abordables pour nous, pauvres Européens, en Turquie. Donc ce soir, on a trois invités. Marc Tudeman du CITEPA qui est en Normandie au téléphone. Donc salut Marc. Il va intervenir tout à l'heure. Et puis on a David-Pierre Goudicelli de Cité Unifrance. Et puis Léo, dont je laisserai présenter son nom de famille, parce que vous savez tous que je ne suis pas très doué avec les mots. Quand il y a trop de voyelles, je me prends les pieds dans le tapis, donc Léo nous précisera tout cela. Voilà, on va peut-être commencer par toi, Léo.
Je m'appelle Léo Ruachnegia.
Voilà. Donc, oui, Ben, toi, t'es polyglotte, toi, t'es doué. Léo, tu viens d'où ? Tu représentes qui ? Alors, Climate, l'association, oui, et puis une autre association qui devrait être connue, mais qui ne l'est pas, Youngo. Donc, d'ailleurs, ce n'est pas une association.
C'est une constituante, qui est la constituante des jeunes de la Convention cadre des Nations Unies.
Voilà, donc climatique. C'est quand même, on a presque un ambassadeur dans le studio, c'est formidable. Bon. Bon, ceci étant, pour ceux qui attendaient, tout à l'heure, je faisais une petite blagounette à propos du tango, oui, c'est parce qu'on a une nouvelle émission sur Radio Aligre qui sera sur l'actualité, ça s'appelle Au cœur du tango. Alors, c'est pas le mercredi de 19 à 20h, mais c'est le jeudi de 19 à 20h. Donc, pour ceux qui auraient voulu précipiter, non, ce sera demain, mais ce sera sûrement un grand plaisir et on l'écoutera avec grande attention.
Et ça parle de quoi, hein ?
Bah de tango, cher ami, et pas simplement de massacre à la tronçonneuse, comme on fait en Argentine en ce moment. Bon, d'ailleurs, puisque tu fais le malin, Ben, ouais. Lance-nous ta chronique. Et puis après, on aura la petite capsule de Théo. Voilà pourquoi, tout à l'heure, Léo, je me suis mélangé les pinceaux. Donc allez, vas-y, Ben.
Au niveau international, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même un coup de froid dans les relations. Entre les uns et les autres, entre le Nord et le Sud, entre ceux qui veulent l'indépendance du Groenland et ceux qui voudraient absolument le récupérer pour eux. Donc ça, c'est... Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et j'ai trouvé que tout ça, c'est la faute de l'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale. Ben oui, parce que l'OMM a décidé qu'à partir de 2025, ça serait la décennie d'action pour les sciences cryosphériques.
Ah.
Alors certains comme toi, François, peut-être savent ce que c'est que la cryosphère.
Oui, c'est fabricant de glace.
oui, effectivement, tu as raison, c'est lié avec les glaces. Pas les Esquimaux, on dit plus ces choses-là. Hein.
Non.
Politiquement, c'est pas correct.
Non, non.
Mais on va
prendre les cornets.
Il y a une vraie histoire sur la préservation des glaciers. Donc, à l'avenir, quand tu penseras au 8 mars, bon, ça c'est la journée internationale des femmes.
Oui.
Mais il y a juste après, il y a le 21 mars, et le 21 mars, c'est la journée internationale des glaciers.
Après c'est le 22 mars,
et
d'ailleurs.
Et ça faudra le savoir, de même que vous devez savoir que cette décennie d'action des activités cryosphériques, c'est quelque chose qui est plus ou moins téléguidé par deux pays phares dans ce bas monde, la République française et la République du Tadjikistan.
Oh, ils ont des glaciers au Tadjikistan ?
Ils ont, oui, absolument. Alors, Je voulais quand même vous parler aussi du futur porte-avions,
oui.
Dont nous n'avons pas encore
le nom.
Je sais pas, on s'en fiche un peu, quoi. C'est pas grave. Parce
on a les mensurations.
En attendant, on a un navire français à capacité GLASS, ça s'appelle comme ça, et qui s'occupe donc de toute la recherche polaire, et qui va s'appeler Michel Rocard.
Ah, parce que c'est sympa.
Oui, c'est un hommage à tout ce que...
Parce qu'on travaille sur l'Antarctique, donc l'Arctique.
Sur les pôles en général, d'ailleurs. Oui.
Les deux.
Absolument.
Même.
La recherche en Antarctique. Et puis, ça va permettre, parce que la France a vraiment des richesses insoupçonnées, notamment monétaires, la France a décidé de reconstruire sa station Dumont-Durville.
Oui.
Que tu connais.
Ah bah oui, puisque notre ami Jean-Louis Etienne, il part passer ses vacances dans une semaine ou deux. Là.
Et donc, on va aussi rénover la station Concordia,
d'accord.
Qui est une station qui n'est pas française seulement, qui est franco-italienne.
D'accord.
Oui. Et donc...
Nom d'un paquebot bien célèbre.
Non, mais c'est important que je vous donne quand même des...
Oui, mais après, on ne voit pas tellement le rapport avec les derniers éléments.
Avec le coup de froid.
Et le coup de chaud.
Alors, pour le coup de froid, ensuite, il y a encore plus grave, c'est un rapport de l'ADEME qui vient de sortir.
Oui.
Et qui vous apprend, ou qui est censé vous apprendre, que tous les data centers... visiblement tout ce qui va permettre à développer l'intelligence dite artificielle, qui n'est ni de l'intelligence ni vraiment de l'artificielle, c'est pas le sujet.
C'est pas le sujet, j'allais te le dire.
Elles vont consommer, à peu près la consommation électrique va quadrupler grâce à tous ces centres de données d'ici 2035.
Okay.
Ça, c'était juste pour vous donner...
Mais tu sais qu'on aura, donc je ne te l'ai pas encore dit, mais on aura en juin une émission consacrée au data center.
Ah, mais ça, c'est intéressant.
Voilà, mais bon, on se le dira tout à l'heure.
C'est bon,
on va finir.
Alors, on va parler d'autres bonnes nouvelles.
Oui, parce que toi, t'en as trouvé, toi, des bonnes nouvelles.
Moi, j'ai trouvé des bonnes nouvelles.
T'es balèze, toi.
Eh bien, justement, ce soir même... À la Maison des Métallos à Paris, l'agence de presse Reporter organise une soirée.
C'est pas une agence, c'est un magazine.
Pour justement lancer sa nouvelle lettre d'information positive. Et cette lettre s'appelle L'Étincelle.
Waouh.
Voilà, donc ça je voulais
comme
quand
une
même...
émission d'Aligre FM, L'Étincelle dans la ville.
Comme...
celle de notre ami France.
Comme Iskra.
D'accord.
Qui est le... La traduction d'étincelle en russe et que Lénine avait mise en avant. Mais bon, ça, on en parlera une autre fois. Voilà.
Et puis pour l'histoire du camarade Trump, là, qui est parti faire une expédition, ça t'inspire quoi, ça ?
Ah, ça, c'est de l'ordre du détournement et du kidnapping. C'est quelque chose de très intéressant, puisque nous avons, en France, nous avons un paradoxe formidable, puisque, en même temps... au niveau de l'Élysée, en tout cas, on considère très très normal de pouvoir se combattre la Russie, puisque la Russie viole le droit international, notamment en ce qui concerne l'Ukraine. Et par contre, les mêmes considèrent que c'est tout à fait normal qu'on fasse ce qu'on a fait à Caracas. Ça, effectivement, c'est une sacrée contradiction.
Ça te laisse pas en toi, quoi.
Ça me laisse pas froid, en tout cas.
Bon.
Ça me laisse pas froid, mais je pense que ça fait partie des informations qu'il va falloir suivre attentivement.
Parce que,
de toute façon.
Est-ce que, alors, donc, il y a cette histoire de la drogue, bon, qui est sûrement important, mais il y a aussi...
Le pétrole.
Le pétrole.
Oui, c'est aussi...
Et j'entendais dire que c'est aussi parce que les Chinois et les Vénézuéliens, qui possèdent la plus grande réserve mondiale, avaient des velléités de changer la monnaie du commerce du pétrole et non plus se passer du dollar pour prendre une autre monnaie qu'on peut peut-être imaginer... être une monnaie chinoise. Hein. Est-ce que tu as des infos là-dessus ou pas ?
Non, je n'ai pas encore plongé dans cette, euh, dans cette obscurité géopolitique. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que ce qui se passe pour les Français, c'est intéressant parce que c'est aussi le miroir de ce qui se passe ailleurs. Et je pense que ce qui s'est passé en Afrique, notamment, pour la France, c'est quelque chose qui peut se reproduire ailleurs. D'ailleurs, puisqu'on parle de la France, c'est intéressant de voir que...
On est en France, non ?
Hein ?
Tu n'auras pas échappé, on est à Paris.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait quelqu'un... Il y a eu une continuation. On avait quelqu'un comme Sarkozy qui nous expliquait que les Africains n'étaient pas encore entrés dans l'histoire. Et son successeur, Macron en l'occurrence, a considéré que les Africains étaient vraiment très cons puisqu'ils n'étaient même pas capables de dire merci. Donc là, on voit que parfois, ça s'amplifie avec des répétitions. Et ce qui se passe aujourd'hui avec le Venezuela, ce qui est intéressant, c'est que ça va pouvoir aussi faire boule de neige ailleurs, et notamment chez nos camarades les Inuits. Et peut-être qu'on devra, à un moment donné ou à un autre...
Réagir un peu plus fermement, quoi, mais bon.
Non, j'allais dire soutenir les velléités d'indépendance du Groenland.
Bon, bah, si c'est pour être, comment dire, en solidarité avec Björk, moi je suis pour, j'adore cette chanteuse. Mais bon, c'était une aparté, mais... En tout cas, bon, grosso modo, la géopolitique, les éléments assez inédits dans ta vieille expérience de spécialiste des questions internationales, c'est quand même assez inédit comme affaire. C'est pas sans rapport avec le climat, parce qu'on imagine bien que derrière tout ça, il y a quand même de la prédation pétrolière qui apparaît au grand jour.
Et personne ne l'imaginait, ça a été dit littéralement par...
Oui,
ça fait partie aussi des objectifs industriels derrière. Ce qui est assez inquiétant d'ailleurs, à quel point la question du climat est très peu traitée face à cet événement.
C'est-à-dire ?
Bah, on entend peu dire que c'est la pire des idées là tout de suite. Les condamnations, elles devraient aller aussi à cet endroit-là. On parle des problématiques géopolitiques, mais ce prétexte-là, en plus du pétrole vénézuélien, qui est réputé pour être très lourd, qui est réputé pour être extrêmement complexe, etc., qui veut dire de très gros, investissements d'infrastructures et donc une recherche de rentabilité sur le long terme. Donc, en fait, le doigt dans un engrenage...
Qui va nous conduire à encore produire plus et consommer plus.
Voilà, alors évidemment que c'est un absolu scandale géopolitique et un piétinement des règles internationales, mais pas seulement des questions de droit d'autodétermination des peuples, c'est aussi un piétinement des engagements, bon alors, les États-Unis sont sortis de l'accord de Paris certes, mais des engagements aussi sur les problématiques...
De l'humanité quand même.
Voilà. Bon.
Oui, parce que la question géopolitique va effectivement... impacter sur toutes les négociations internationales.
Mais bon, chers amis, je vais être obligé de vous couper parce que
non, mais on a bien fait, François, de revenir à la fin, malgré tout, sur le climat.
Oui, voilà,
ce qui était quand même...
C'était le but du jeu. Hein. Bon, eh bien écoutez, on va peut-être écouter malgré tout la capsule de Théo, la bonne nouvelle de Théo qui va nous réveiller parce que... Est-ce que Armand peut nous l'envoyer ?
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Bonsoir à tous, moi c'est Théo et ma mission ce soir, ça va être de vous donner le sourire avec des bonnes nouvelles parce que dans le monde anxiogène qui est le nôtre, ça fait toujours du bien. Et au passage, je commencerai cette chronique en vous souhaitant une très belle année 2026. En tout cas, aujourd'hui, on va voyager un peu direction l'Amérique du Sud et plus précisément le Pérou. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé de bienheureux au Pérou en ce début d'année ? Eh bien, pour le savoir, il faut regarder du côté des abeilles. En effet, le Pérou abrite une population d'abeilles qu'on appelle les abeilles sandar d'Amazonie. Alors, ces abeilles, elles appartiennent à une famille plus grande qu'on appelle celle des abeilles sandar. Qui peuplent notamment les régions tropicales de la planète. Et en l'occurrence, celles d'Amazonie sont responsables de 80% de la pollinisation de la forêt, autant dire qu'elles la font vivre littéralement. Et d'ailleurs, elles ne sont pas indispensables qu'à la forêt, puisque parmi les plantes qu'elles pollinisent, on compte aussi des arbres fruitiers, comme des avocatiers ou des cacaotiers, importants pour les communautés locales qui les utilisent, aussi pour se soigner. Bref, l'importance des abeilles n'est plus à prouver pour leurs écosystèmes, pas plus que les pressions qui pèsent sur elles, notamment dues aux produits chimiques issus de l'agriculture, à la déforestation et, en l'occurrence, à la concurrence d'abeilles européennes. En tout cas, pour en revenir à notre bonne nouvelle, il faut se rendre dans deux localités, Nauta et Satipo, vous me pardonnerez pour la prononciation, qui viennent de passer un cap assez symbolique, celui d'accorder des droits à ces abeilles. Alors ça peut paraître insolite, hein, même carrément saugrenu, et oui, on dérange encore le mot saugrenu en 2026, mais ça implique des changements bien réels. Pour être exact, il leur a été reconnu le droit à un habitat exempt de pollution, des conditions climatiques stables et surtout, surtout, c'est ça le point important, une protection juridique. Très concrètement, dorénavant, dans ces deux localités, il sera possible pour une association, pour de simples citoyens, d'aller défendre les abeilles en justice, de défendre leur droit à elles. Pour le dire autrement, cette mesure, c'est une petite révolution dans la conservation des espèces, puisqu'elles peuvent maintenant être défendues par un tribunal, comme vous, comme moi, ce qui implique aussi des sanctions claires et établies pour ceux qui menacent ses droits. Et l'autre bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est loin d'être une mesure isolée. En ce qui concerne les abeilles, par exemple, plusieurs collectifs un peu partout dans le monde, hein, aux Pays-Bas, en Bolivie, aux États-Unis, souhaitent déjà s'inspirer de ce genre de mesures pour appliquer une meilleure protection de leurs propres espèces. Et si on s'éloigne un peu de cette espèce, cette initiative, en réalité, elle rejoint un courant plus large et de plus en plus populaire, les droits de la nature, qui consiste tout simplement à donner des droits à des espèces, des entités naturelles comme des montagnes, des rivières, des forêts, afin de mieux les protéger. Un exemple assez connu, hein, c'est le mont Arakani en Nouvelle-Zélande, qui a lui aussi depuis janvier 2017 des droits au même titre que n'importe quelle personne morale. On peut aussi citer les droits accordés au mont Himalayen par certaines juridictions locales, le fleuve Atrato en Colombie ou encore, premier cas européen en 2022, la lagune Mar Menor en Espagne. Tous ces exemples sont bien la preuve qu'une réconciliation entre la nature et l'humanité est possible, ici en intégrant mieux la nature dans nos propres sociétés. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine.
Eh bien, merci Théo et à la semaine prochaine. Et donc, on va continuer avant de relancer Marc et Léo. On va faire notre petite pause musicale. Alors ce soir, c'est Orage de Coquelicot.
Qui nous rassemble pour qu'à notre réveil on voit comment on se ressemble. Ouais, j'ai peur donc je lutte face au vent des lobbies, face à tout ce déni. Cette hypocrisie me bute, un tonnerre dans ma tête, une tempête de pensées embrouillée de peut-être. Suis-je prête à lutter? Je veux donner tout mon être pour le monde d'après. Pas question de les laisser plus longtemps ravager. En moi, cette rage au milieu de l'orage. Condamné, je dois tenir tête à ceux qui pourraient tout changer. Dans nos failles, dans nos peurs, dans nos joies, nos bonheurs, c'est ce doute qu'on combat, toi et moi. Oui, y a notre maison qui brûle. Est-il encore temps pour choisir mon futur? Je dois élire mon présent. C'est de plus en plus dur, les conséquences m'effraient. Mais y a une chose dont je suis sûre qui me permet de me relever. C'est voir en nous ce courage au milieu de l'orage. Quand je vois tous ces visages, je sais qu'on ira jusqu'au bout. Qu'ils voient bien notre rage au milieu de l'orage. Mes amis, on ira jusqu'au bout. Oh.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Eh bien, nous revoici sur Allegre FM dans les arènes de l'écologie pour cette première émission de l'année 2026 qui commence sur les chapeaux de roue. Donc, 2026 plus que l'émission. C'est Théorage de Coquelicot qui est à découvrir en concert vendredi 9 janvier, dans 3 jours, de 20h à 23h à l'Alimentation Générale, 64 rue Jean-Pierre Timbaud, dans le Paris 11e, métro Oberkampf, ligne 5 et 9 et Parmentier, ligne 3. Donc je précise toujours parce que ça, devrait être une habitude qu'on devrait instaurer dans toutes les communications, c'est d'indiquer la station de métro puis la ligne pour venir, parce que sinon on passe à peu près un quart d'heure avec Google à chercher le métro. C'est rien n'est fait là-dessus. Il faut donc agir personnellement sur ces tout petits gestes pour encourager effectivement l'utilisation des transports en commun.
C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que même pour les associations, c'est très rare de trouver leur adresse sur le site.
Voilà. Bon, alors en tout cas, ouais. Coquelicot, on va passer de voir vendredi. Et puis, on va passer la parole à bientôt à Léo. Je vois que tu pierres d'impatience, Ben, d'interroger Léo. Mais bon, là, c'est Marc qui est au frigo en Normandie.
En frigo?
Oui, forcément. En province, d'accord, il fait froid. C'est bien connu. Bon, Marc, tu nous entends?
Je vous entends très bien, oui. C'est pas dans le frigo, hein. Non.
T'étais pas au frigo, c'est bon, ça va, il fait chaud en Normandie.
Tu peux me tutoyer.
Non, il fait pas beau, il fait frais, mais pas froid. Il a fait froid, il a fait moins 2 hier, mais là, ça va.
Bon, tant mieux, on est heureux pour toi. Ouais. C'est pareil, la neige a fondu, le RER a remarché. Toute la matinée, j'avais une terrible angoisse. Est-ce que mon RER favori va pouvoir m'amener au studio ou pas? Bon, tout a l'air de pouvoir rentrer dans l'ordre.
Les aéroports aussi?
Ah, ça, je m'en occupe pas, moi.
C'est important, quand même.
Non. Allez, trêve de plaisanterie. Marc, alors, toi, t'étais pas à Bellem. T'as pas voulu faire le voyage,
non.
Même si beaucoup...
Non, j'ai pas voulu pour des raisons éthiques et surtout que j'ai pas besoin d'y aller. Figurez-vous que je suis allé à la COP21 en 2015 et, en fait, j'ai pas pu suivre les négociations parce que, il faut être... comment dire, il faut avoir l'accréditation, je ne l'avais
le
pas.
Le badge bleu, donc, si j'ai bien compris.
J'ai traîné dans les couloirs, c'est comme un salon, et puis j'ai quelques contacts, etc. Sinon, je me suis mis dans la salle de presse et j'ai fait mon travail de veille et d'analyse et de synthèse comme je le fais au bureau. Donc, j'avais vraiment pas besoin.
D'accord.
Parce que si vous voulez, moi, mon travail, c'est donc de suivre les avancées ou le manque d'avancées, devrais-je dire, dans les négociations jour par jour. Et il y a beaucoup de publications en anglais qui sortent, il y a plusieurs sources, notamment IISD, donc c'est l'Institut international du développement durable qui est basé à Winnipeg au Canada. Il y a Climate Home News qui est un site spécialisé sur le climat, je pense, basé en Angleterre, enfin au Royaume-Uni. Et puis, il y a aussi Carbon Brief, qui est pareil, basé en Angleterre. Donc, je suis tout ça, je fais une synthèse en français, parce que tout ça, ça sort en anglais, je synthétise en français.
Oui, parce que t'es bien,
quoi. Ça, je suis britannique d'origine, mais je suis naturalisé français depuis 4 ans maintenant.
Bon, bravo.
Et donc, voilà, mon travail, j'ai pas besoin d'aller à Bellem. J'ai eu 3 collègues qui sont allés, parce que ce sont des ingénieurs, ils ont participé à des ateliers techniques, donc c'est normal qu'eux, ils aillent, mais qu'ils soient allés, mais moi, non.
Voilà. Bon, donc ok, alors tu fais toi une synthèse des négociations, ça veut dire que t'as affaire tu t'analyses les textes, tu vois quelle virgule a bougé,
je précise qu'est-ce qui va discuter aujourd'hui, le programme de la journée. Ensuite, je reviens plus tard dans la journée sur ce qui avait été dit la veille. Par thème, parce que vous savez, il y a des volets de négociation toujours, donc atténuation, adaptation, perte et préjudice, bilan mondial, le Global Stocktick, etc. Donc je fais ça par thème, par sujet de négociation, et aussi ce qui se passe en dehors, parce qu'il y a à la fois les négociations formelles pour avancer sur le agenda, le programme, mais il y a également tout ce qui se passe en dehors. Et chaque journée, il y a une journée thématique organisée par la présidence, en l'occurrence brésilienne, l'année dernière, pardon. Et puis, il y a souvent des journées spécialisées, transport, énergie, etc. Et il y a aussi le segment, la séquence de haut niveau avec les chefs d'État et de gouvernement. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'annonces.
Ok, donc dans ce grand fatras qui peut être perçu quand on regarde une conférence diplomatique, bon, réunissant 194 parties, c'est pas très surprenant quand on voit déjà comment ça se passe dans une assemblée de syndics, on se dit que dans une convention internationale, ça peut pas être simple. Donc, il faut effectivement pouvoir avoir un œil exercé pour regarder ce qui décante de tout ça. Donc, toi, ça, c'est ça ton boulot, quoi.
Oui, et comme je suis ça depuis plusieurs années, donc j'ai l'historique. Le contexte, c'est très important parce que d'un coup, on parle de ça, mais pourquoi ça? Parce que ça s'inscrit dans le cadre d'un programme ou de travail ou d'une décision il y a 2-3 ans, etc. Donc tout s'imbrique, tout s'enchevêtre et c'est mon travail de décortiquer, de décrypter tout ça. Alors il faut savoir, il y a 198 parties à la Convention climat et il y avait 194 parties à l'accord de Paris, maintenant 193, parce que les États-Unis, comme vous le savez bien, se retirent, enfin, ça devient officiel fin janvier, donc voilà.
Ok. Okay. Bon, en tout cas, effectivement, on ne va pas ergoter sur les unités de nombre des partis, même si, à moins que c'est un intérêt fondamental.
Non, c'est juste pour parce que les gens, des fois, ils se trompent, mais c'est vraiment... Parce que en fait, l'Union européenne est une partie à part entière, mais chaque État membre est également une partie.
D'accord, oui. Donc c'est les 27 plus 1, donc on revient à 28.
Oui, c'est ça. Et les problèmes, pourquoi c'est tellement compliqué, tellement long, c'est parce que la règle, c'est le consensus. Donc on décide par consensus. S'il y a une partie qui est contre, ça passe pas.
Bon, en tout cas, même si on peut se demander ce que fait notre cher ami Marc considéré, parce que bon, on va vous le dire, même les plus éminents savants français du GIEC lui disent, mais ça je vais le dire à sa place parce qu'il est trop modeste pour le dire, un Jean Jouzel ou un Valérie Masson-Delmotte lui disent surtout pars pas à la retraite, continue ton boulot, ça nous est vachement pratique pour pouvoir comprendre.
C'est Jean Jouzel qui me l'a dit, oui.
Voilà. Donc, alors, bon, bah, Marc, tu restes en ligne avec nous et puis tu interviendras sur les interventions de nos amis. Bah, je vais donner la parole à Léo parce que, alors, effectivement, ce que j'ai annoncé dans le pitch de l'émission, c'est que derrière le premier rideau un petit peu souvent décevant des non-avancées des grandes conventions, il se passe plein d'autres choses au COP. Et ce qu'on appelle les avancées de deuxième rideau, c'est comme au théâtre. Donc peut-être que vous qui étiez pour les jeunes, pour Léo, comment dire, dans le mouvement des jeunes pour le climat, et puis pour...
Les moins jeunes.
Oui, moins jeunes, ça a été sympa.
Merci.
Voilà, pour David Pierre, bon, c'est vrai que ça fait... Il était déjà venu l'année dernière, il a un an de plus que l'année dernière, on est d'accord, Ben, bravo. Merci de ton intervention.
C'est une chose.
Utile. Mais bon, grosso
modo.
Mais
c'est intéressant parce que ça fait deux.
Oui, mais je précise quand même que tu y étais pour les pouvoirs locaux qui contrebalancent vocation à contrebalancer l'immobilisme des États. Mais bon, tout ça pour dire que Léo, on te passe la parole. Alors explique-nous tout, ton nom, ta fonction, où est-ce que t'es.
Le sens de ta vie.
Super.
Vas-y Léo, c'est ton tour.
Ça marche. Donc je m'appelle Léo, je suis activiste pour la justice climatique et les droits humains. Aujourd'hui, je travaille avec une association française qui s'appelle Climates France, qui est une association de jeunes qui est basée à l'Académie du climat à Paris, mais qui est aussi une organisation internationale. On a des bureaux qui se trouvent en Autriche, au Mali, à Madagascar, en Chine, en Australie.
L'international du climat, quoi. Alors.
C'est ça, et on est vraiment une organisation de jeunesse. Donc,
et on est jeune jusqu'à quel âge dans le climat?
Nous, on suit les règles de la Commission européenne, et donc on est jeune jusqu'à 32 ans.
Ah d'accord, c'est quand même moins qu'aux jeunes agricoles, quoi.
Voilà. Donc nous, dans notre
c'est moins qu'au JA, quoi.
Et à la SNCF.
Bon, allez, vas-y, te laisse pas impressionner par notre indiscipline.
Loin de là,
chronique.
Juste, je veux absolument vous laisser la parole aussi. Donc voilà, donc Climate, nous, on est une association qui a été créée en 2011 et on s'engage sur les négociations internationales de la CNUC depuis.
Alors,
depuis
explique-nous, la CNUC, c'est quoi? C'est Eskimo, ça? C'est le Groenland?
C'est la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Donc, c'est vraiment la convention qui régit, en fait, l'espace qu'est la COP.
D'accord, j'ai eu peur, j'ai cru que tu allais nous faire encore une incidence pour le Groenland, comme notre ami Ben. Non, okay.
Et c'est vraiment un des éléments aussi que je veux d'abord commencer à dire, c'est qu'on va parler de beaucoup d'acronymes, et donc c'est bien aussi qu'on puisse les préciser et tout. Donc s'il y a des acronymes
pas tous, mais on voilà. va peut-être en reparler après, faire un lexique. Entre nous, mais bon, on va pas tout dévoiler. Allez, vas-y.
Et donc, du coup, un autre de mes rôles au sein de Climates, mais aussi au-delà de Climates, c'est de faire partie de la constituante jeunesse de la CNUC, de la Convention cadre, qui du coup est le corps qui représente la jeunesse dans les négociations. Et moi, j'ai eu la chance d'être coordinateur du groupe de travail.
Alors, ça vient d'être créé, parce que personne ne connaît ça.
Pas du tout. C'est une constituante qui fait partie de la CNUC, hein, donc c'est vraiment mentionné. Tout comme on a une constituante qui porte sur les enjeux genre qu'on va appeler Women and Gender, on a une constituante sur les syndicats travailleurs, on a des constituantes vraiment qui sont représentatives de tous les...
Et une constituante des gouvernements locaux, voilà. Également, qui est coordonnée par l'Association internationale.
Des peuples autochtones, enfin voilà, il y a beaucoup de représentations au sein des constituantes.
Et Marc, toi, tu connaissais cette constituante pour les jeunes, le climat ?
Non, mais moi, je suis plus jeune. Moi, j'ai 64 ans, donc forcément.
Mais on ne disait pas que. On ne t'a pas posé la question de savoir si tu étais adhérent. Oui, tu as le but.
Pas d'excuse.
Réponds.
Donc, à 64 ans, tu as deux fois l'âge pour y être, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais par contre, je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit, ce que vous avez dit. Nous, le QTPA, on a fait un glossaire justement de tous les termes importants pour la CNUC et pour comprendre la CNUC, la CMA, etc. Donc voilà.
D'accord, c'est pareil. On en reparlera tout à l'heure pour voir comment on pourrait mettre ça à disposition de nos très nombreux auditeurs. Qui n'arrêtent pas de nous envoyer des mails, des messages par pigeons voyageurs pour nous dire « mais expliquez-nous les acronymes ». Bon, vas-y, je t'ai coupé.
Non, mais pas de souci. Et donc, du coup, voilà, donc mon travail, c'est ça, en fait, c'est que j'ai la chance, par mes différents engagements militants, d'avoir eu un badge pour rentrer en zone bleue.
Un badge de quelle couleur ?
Alors, moi, mon badge est un badge jaune, c'est un badge observateur, c'est-à-dire que je fais vraiment partie du groupe de la société civile qui n'a pas accès aux portes fermées des négociations gouvernementales. Donc, c'est pareil, c'est le rôle d'observateur, on aura l'occasion d'y revenir, j'imagine, mais...
Il ne reste plus que 25 minutes, Thierry.
Le rôle d'observateur, c'est un rôle qui est assez compliqué parce que au fur et à mesure de l'évolution de la COP, des COP, on peut avoir accès ou non à certains espaces.
En tout cas, tu peux pas voter, quoi.
Alors non, personne des constituantes ne vote. Donc comme ça, c'est vraiment les représentants des gouvernements qui auront un droit de s'exprimer sur les décisions qui sont prises. Les observateurs n'ont pas ce droit-là. Les parties overflow, donc les invités des gouvernements, n'ont pas ce droit-là non plus. Notamment Monsieur Pouyanné, qui a été invité par le gouvernement français
et qui est.
Il ne fait pas partie des jeunes.
Il est un criminel.
PDG de.
Ah, PDG Total. Ah, pardon.
Oui, mais des gens ne savent pas.
A mentionné avant. Allegedly. Mais.
Bon. Yes, please.
Voilà. Mon travail, c'est de faire en sorte que les enjeux des droits humains soient inclus dans les items de négociation, à savoir que les droits humains ne sont pas un objet de négociation à proprement parler, et donc du coup, on les inclut au fur et à mesure des négociations. Donc moi, cette année, j'ai travaillé sur le programme de transition juste et les enjeux de genre.
D'accord. Et donc, on reviendra tout à l'heure sur l'aspect jeune, puisque tu m'avais dit tous les pays ont une délégation jeune, ou du moins des représentants, et qui avaient émis, parce que ça c'est quand même important, parce que c'est quand même ces générations-là qui vont subir le plus gros des bouleversements. Et donc il est peut-être temps qu'on les entende, et parce que le réchauffement climatique, c'est pour vous, les gars.
Qui soit intégré dans les différentes délégations, c'est
tout
ça aussi.
Tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu des grosses améliorations. Hein. Les jeunesses sont vraiment de plus en plus inclus. Aujourd'hui, beaucoup de gouvernements font un programme qu'on appelle le programme des jeunes délégués. Donc c'est deux personnes qui sont incluses dans la délégation officielle des gouvernements. Et également, il y a un processus qui fait partie de la CNUC, qui s'appelle la LCOY, pour Local Conference of Youth, qui est un événement annuel que Climates et d'autres organisations de la société civile française organisent pour créer un plaidoyer des jeunesses nationales qui sera ensuite porté à la COP par nos associations.
La COP 31 qui sera...
Tout à fait, la COP 30. Ouais. Et nous, ça va faire 5 ans maintenant qu'on accueille la LCOY, donc ça va faire 5 ans que la
France...
Et
donc, on a une espèce de cahier de doléances de toute la jeunesse mondiale.
C'est ça, qui s'insère dans les négociations, dans les
Ben, tu as déjà vu passer ça dans la presse française, dans les médias français ou pas?
Non. Non, pas vraiment.
Bon, moi, écoute, on va peut-être essayer d'y travailler. Il y a des choses à faire.
C'est ça ce que tu voulais dire.
Eh ben oui, écoute, moi, je cherche de la pige pour changer un petit peu les médias.
On ne manquera pas de vous tenir au courant à la prochaine édition.
On va en parler.
Non, mais déjà, on parle très très peu de ces instances internationales en général. Ouais. Donc,
peut-être
très normal qu'on parle très très peu aussi de la division jeunesse.
Comment ça marche? Bon, c'est vrai que ça a l'air d'être une espèce de ruche. avec une division du travail.
Ah, parce que Théo avait parlé des abeilles.
Voilà. Non, c'était autre chose. Mais bon, il y a derrière cette espèce de foisonnement, il y a quand même une organisation un peu mystérieuse, comme dans une ruche, quoi. Qu'en penses-tu, David Pierre?
En effet, c'est intéressant que... toujours diplomatique.
Quelle bande de faillolés. Mais j'adore, allez-y.
On va revenir des fois. Non, je plaisante. Enfin, si, quand même. Mais non, c'est intéressant qu'il y ait justement le côté acteurs non étatiques, donc qui ne font pas partie des partis, justement, ouais. De cette conférence des partis, qui sont présents, qui étaient présents et qui suivent ce processus, autant les médias.
Oui, mais
les
c'est important
en général,
condition qu'on sache le restituer au public.
Oui, exactement, parce que
parce
souvent,
qu'aujourd'hui,
ça manque...
là, dans l'opinion publique, les COP, ça sert pas à grand chose, ça brûle de l'argent, etc.
Mais
etc.
C'est pour ça que je félicite l'IGFM et que je félicite les Arènes de l'écologie, parce que là, pour le coup, il y a ces constituantes qui représentent et qui essaient d'organiser justement la voix des acteurs non étatiques qui font ce lobbying positif en quelque sorte, en fait, qui sont dans les couloirs aussi et qui essaient de contrer le lobbying négatif des pétroliers, etc. Alors, il n'y a pas les mêmes moyens en face, hein. Mais c'est intéressant, bah, d'ailleurs, qu'on soit tous les deux à cette table aujourd'hui, que cet effort coordonné des acteurs non étatiques essaie de pousser les États à prendre aussi des bonnes décisions qui soient à la hauteur des enjeux. On sait clairement que là, cette COP n'a pas été à la hauteur des enjeux, mais mine de rien, sans tout cet effort qui a été mené par les constituantes comme Youngo, il permet quand même à ce que ce ne soit pas uniquement négatif, et surtout il
permet d'être sur place et de créer des... Allez, et les pouvoirs locaux dans...
Ah bah les pouvoirs locaux étaient sur place aussi, donc il y avait...
Alors, raconte-nous, qu'est-ce que les pouvoirs locaux ont fait ce coup-ci à la COP?
Ben, leur lobbying, ils ont tâché, et grâce à une organisation assez bien structurée et qui est dirigée par notre point focal, c'est le réseau qui s'appelle ICLEI, qui est un réseau mondial de villes et de régions qui est dédié aux questions environnementales. Et donc, c'est les villes et régions très engagées sur ces questions-là qui se structurent et qui représentent aujourd'hui cette constituante dans la Convention pour le climat, mais qui font aussi du partage d'expériences en parallèle. Elles ne bossent pas que lorsqu'il y a des COP comme ça, certains événements. En fait, elles agissent déjà pour lutter contre le changement climatique, pour lutter contre la perte de biodiversité.
Grosso modo, derrière la prise de parole et les positions nationales, il y a plein de choses qui avancent. C'est ça que tu es en train de me dire.
Exactement. Et en fait, on était sur place et les gouvernements, plein de gouvernements locaux étaient sur place pour justement dire, en fait, c'est censé être la COP de l'implémentation, du passage à l'action. En fait, les gars, les villes et les régions, elles se payent déjà les impacts du changement climatique aujourd'hui. C'est déjà le parapluie des habitants aujourd'hui et c'est elles qui doivent avoir les moyens de faire cette transformation des différents modèles économique et tout ça.
Pourrait avoir un bilan des actions réellement engagées? Est-ce qu'on pourrait avoir... Alors, aujourd'hui,
C'est vrai qu'on parle beaucoup des procédures.
Voilà, on parle toujours des
échafaudages, des immobilismes. Au niveau institutionnel, mais on ne parle pas assez, et ça, faites-le, ne serait-ce que pour la radio Aligre, d'avoir comme ça des exemples d'avancées concrètement. Qu'est-ce que vous avez réussi?
Alors, ce que les gouvernements locaux ont réussi, d'être ensemble et d'être coordonnés. Ça veut aussi dire, mine de rien, qu'il y a un multilatéralisme qui existe, et certes, celui de l'État est terriblement en panne aujourd'hui, est terriblement critiqué aujourd'hui à juste titre, mais en fait, le multilatéralisme, l'échange international, il continue.
Donc c'est de la diplomatie citoyenne.
Oui, mais l'action est déjà en cours. Diplomatie des villes, des territoires, on en parle de plus en plus. Paradiplomatie, c'est aussi un terme qui monte. Et heureusement, Dieu merci, aujourd'hui, face aux enjeux globaux qu'on a, le multilatéralisme n'est pas mort.
Est-ce qu'on serait
capable on de discute faire... avec des maires de tous les pays, des maires du continent ouais. africain, des maires du continent sud-américain. Accessoirement, les États-Unis n'étaient pas présents en termes de pays, mais ça a fait grand titre quand même. Gavin Newsom, par exemple, était venu, ce qui a permis de mettre le projecteur sur les acteurs non étatiques. C'est le gouverneur de la Californie, voilà. de l'État de Californie, qui montre que même si les États-Unis sont sortis, en fait, il y avait plus d'une centaine de gouvernements locaux, donc de villes et d'États américains, qui étaient, enfin, états-uniens, pardon, qui étaient présents à la COP. Donc ça veut dire que les États-Unis sont toujours présents, en fait. C'est juste pas à l'échelle des États-Unis. Et en fait, c'est le même cas pour plein d'autres pays qui traînent complètement la patte.
Pas à l'échelle, la France n'est pas toujours vraiment
à
l'état.
Pas à l'échelle, mais pas à l'échelle, à l'échelle. Voilà, du côté voilà. de l'échelon national,
donc,
mais à l'échelon local.
Que la démocratie, c'est aussi à différentes échelles, à différents
oui,
niveaux.
Et c'est bien de le rappeler à 3 mois des élections municipales et en voilà. France, accessoirement.
Bravo, bravo. Quelle transition.
Mais cet engagement, il est là. Et il y avait des élus locaux de plusieurs villes françaises. Par exemple, la ville de Poitiers était présente, qui dirige au sein de Cités Unies France, mon association, une dynamique sur le climat avec plein de gouvernements locaux qui mettent à disposition, enfin, qui mettent leurs actions ensemble et leur coopération internationale ensemble sur ces enjeux-là.
30 secondes sur ouais. cette question de l'action des municipalités sur le climat. Est-ce que ça peut être un sujet de différenciation entre les politiques municipales, les bilans municipaux? Est-ce qu'il y a moyen de savoir ce que fait ma ville pour le climat?
Alors bon, oui, clairement, déjà tout simplement en allant leur demander et en les tenant redevables des bilans, puisque ça va être le temps du bilan là et le temps des campagnes. Ça va être très intéressant de voir qu'est-ce qui est mis en avant là-dessus. Il y a plein de villes qui font plein de choses là-dessus. Il faut espérer que dans les débats qu'il va y avoir avant les élections, la question bon, environnementale
tu,
soit pas
invisibilisée. Tu quittes pas le studio sans qu'on en ait parlé après la fin de l'émission, parce qu'on aura un cycle écologie et municipalité et bon, municipale ou municipalité à partir du 11 février. Voilà.
Ok, et juste très rapidement, pour répondre à la question, parce que sinon
et dans une minute, on a la musique.
D'accord.
Bon, allez, vas-y.
Et en fait, les avancées ont été évidemment pas satisfaisantes. On a poussé, les gouvernements locaux ont poussé, ont crié pour qu'il y ait notamment de la finance climatique qui, pour l'instant, il y a à peine 10% qui va toucher les gouvernements locaux, alors qu'on estime que c'est 50 à 70% des efforts d'adaptation qui doivent être, enfin à minima, qui doivent être faits et par les gouvernements locaux. Donc la finance climatique ne va pas dans ce sens-là. C'est pour ça que les gouvernements locaux étaient sur place pour dire bah, tous vos instruments, tous les mécanismes que vous discutez, là, notamment l'accélération, les plans d'adaptation, etc., en fait, ils doivent prendre en compte les gouvernements locaux. Et on essaie de faire porter ça. Heureusement, les gouvernements locaux sont de plus en plus mentionnés dans les textes, même dans les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais de plus en plus aussi sur les indicateurs d'adaptation, on en vient à voir les gouvernements locaux. Mais c'est toujours pas satisfaisant, c'était décevant, vu tout l'effort qui était mené.
Et alors là,
mais on lâche pas.
Je renvoie le micro pour très rapidement à Marc. Toi aussi, t'es pas, tu peux observer les différentes actions des gouvernements locaux, dont du moins au niveau français?
En fait, moi, ma spécialité est d'être...
Quand je dis toi, c'est cité pas, hein, en général.
Oui, je sais, mais c'est uniquement la politique climat internationale. Je ne travaille plus du tout sur la France. Je couvre les COP, l'OMI, l'OAC, etc. Donc, je ne sais pas trop. Mais j'ai quelques dossiers sur la Chine ou sur d'autres pays. Hein, mais moi, si vous voulez, je suis plus tout ce qui se passe au niveau multilatéral. Voilà.
D'accord. Mais tes collègues...
important, ce qu'a dit David Pierre, c'est tellement important. C'est vrai, c'est capital, parce que qui c'est qui met en œuvre les politiques décidées au niveau international, européen ou national? Bah, c'est les collectivités locales et les collectivités territoriales. Donc, c'est très important qu'ils soient impliqués. Hein.
D'accord. Bon, bah on va se passer une petite musique et puis après on terminera sur qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Ok. Allez, à tout de suite.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Ça m'est tombé dessus. Après, je fais avec, je prends les choses comme elles viennent. Mais je veux dire, c'est pas grave qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas.
T'as jamais voulu être célèbre?
Non.
Ouais gros, laisse jacter les autres, ils sont pas comme nous. On veut pas des belles assiettes, nous ce qu'on veut c'est de la bonne bouffe. Je leur laisse la pâte avec la Rolex et je prends le temps. Putain de vie de chien, ce qui nous tient en laisse c'est le rendement. Est-ce que t'entends? C'est le résultat, t'y piches dans le noir. Reste toi, parce que moi ça m'a pris 30 ans. C'est indéniable que mon talent est remarquable. 2025, le diable prend les paiements par carte. Dis pas que t'as pas le choix, la vie c'est simple cousin. C'est soit tu tapes, soit tu préfères jouer la victime. Eux c'est des saints, laisse-moi rire, ils font des trucs louches. J'écoute deux fois plus que je parle parce que j'ai qu'une bouche. On vous emmerde parce qu'on a déjà trop dit pardon. L'amour ouf, c'est Gainsbourg et Brigitte Bardot. Une lame, du sang et un check en guise de promesse. Je fais confiance en ceux qui agissent, pas ceux qui promettent. Une lame, du sang et un check en guise de promesse. Pas ceux qui promettent. Des mots, du sens et du son, rap authentique, sans marketing, sans séduction. Pas là pour faire la une, pas de masque du vrai. On me demande quand est-ce que tu perces. C'est juste des mots, du sens et du son, rap authentique, sans marketing, sans séduction. Pas là pour faire la une, pas de masque du vrai. On me demande quand est-ce que tu perces. J'suis pas comme eux, moi, j'ai des rêves. Ils te respectent pas si t'es pas connu, c'est réel. On te regarde que si t'es riche et célèbre. Pigez le rap, pigez le cash, c'est juste des chiffres et des lettres intellectuelles. Aucune dégaine, aucune gestuelle. Bipolaire, donc dans ma tête ça fait est-ouest. J'suis à l'usine, sa mère, ça casse le dos. Putain, quel rime de bâtard. J'ai vu des perles se perdre dans l'océan. C'est pas de la chance si je perce, j'étais dans la merde. Entre c'est pas de l'amour, c'est de la bienséance. Culture du vide se fait dépasser par celle du néant. Pense qu'à faire du son avant que n'arrivent les huissiers. Pas de pharmacie, ni de psy, on a l'épicier. On passe la nuit à tease, parce que nos démons sortent tard. Je suis en retard, sur ma vie j'ai pas de gosse. C'est juste des mots, du sens et du son. Rap authentique, sans marketing, sans séduction. Pas là pour faire la une, pas de masque du vrai. On me demande quand est-ce que tu perces. C'est juste des mots, du sens et du son. Rap authentique, sans marketing, sans séduction. Pas là pour faire la une, pas de masque du vrai. On me demande quand est-ce que tu perces.
Eh bien, nous voici de retour dans les arènes de l'écologie sur Aligre FM. Eh bien, on vient d'écouter Frère Taga, du sens et du son, un titre promesse de la part d'un rappeur stéphanois, fier de ses origines ouvrières, et dont vous pouvez aussi retrouver le portrait dans l'édition de Libé du 29 décembre, 25 hein, bien sûr, sous la plume de Brice Miclet. Bon, bah écoute Ben, pendant la pause, je crois que la parole scandée de notre ami Taya, t'avais un petit peu...
Non, on avance. On avance pour mieux comprendre en quoi ces différents grands happenings internationaux, jusqu'à quel point ils peuvent vraiment prendre en compte aussi ce que tu mentionnais, toi, qui étaient un peu les acteurs non étatiques.
Alors, quand il dit toi, c'est David Pierre.
Hein. David Pierre.
Voilà. Pour ceux qui n'ont pas la télé. Hein.
Et également, parmi les acteurs non étatiques, toute la composante jeunesse, qui n'était pas du tout prise en compte il y a encore 20 ans. Donc, je pense que là, c'est intéressant, et j'ai envie de poser la question, mais qu'est-ce qui foire complètement dans ces instances? Qu'est-ce qui fait qu'au fond, on a... Bon, si on est politiquement correct, on va dire que c'est plus ou moins intéressant, bien réparti entre les différents acteurs, mais on peut aussi se dire qu'il y a une grande déception, non?
Ah oui. Allez,
Léo,
reprends
le micro.
on peut le dire ouvertement, nous, je parle au nom de mon association, au nom de la constituante jeunesse, vraiment on a été déçus des aboutissements de cette COP. Il y a évidemment du positif, mais il y a beaucoup de négatif, et pour moi, en toute honnêteté, ce qui déconne, ce qui ne marche pas dans les instances multilatérales comme la CNUC ou comme les COP, c'est un manque de volonté politique. Vraiment, aujourd'hui, on a non seulement un consensus des professionnels du droit international, avec la advisory opinion de la Cour internationale de justice qui est sortie en juillet 2025 et qui a vraiment mis tout le monde au clair, tous les professionnels juridiques, à dire que l'action climatique est une obligation des États, des entreprises, des populations de manière générale. On a également un consensus scientifique. Notamment, aujourd'hui, je suis assistant de recherche pour un groupe de recherche qui travaille pour le GIEC, l'IPCC. Et enfin, c'est des choses qui ne se questionnent plus, en fait. Et la seule chose que moi, je vois encore comme frein à tout ça, c'est les intérêts économiques et c'est le manque d'ambition politique.
Exemple.
exemple concret. Par exemple, moi, j'ai des relations personnelles avec le Brésil. J'y ai vécu, j'y ai étudié. Quand j'ai vu que la présidence cette année de cette COP allait être brésilienne, j'ai tout de suite pensé que ça allait être un aspect positif des dernières COP qui étaient dans des États non démocratiques et des États pétroliers.
C'est ce que la presse, ici en Occident, a révélé.
Ouais. Et la société civile également. On était tous plus ou moins confiants qu'on allait pouvoir faire des manifestations sur place. Et ça a été le cas. Mais il y a eu plusieurs faits qui ont trahi en fait cette présidence brésilienne, notamment la signature d'un nouveau projet pétrolier dans l'Amazonie. Il y a également...
Oui, parce que le Brésil est aussi une puissance pétrolière.
Tout à fait. Et il y a eu... Je travaille beaucoup sur les enjeux de militarisation et cette COP a été extrêmement militarisée en fait. Très très rapidement, dès le deuxième jour de la première semaine de cette COP, les populations autochtones qui n'avaient pas accès à la zone bleue, à la zone de négociation, ont essayé de rentrer par force dans l'instance à la fin de la journée. Donc les portes étaient officiellement... Il n'y avait plus de négociation qui était sur place, mais ils ont essayé de rentrer et il y a eu un gros conflit avec la sécurité présente sur place, qui était une sécurité de l'ONU. Et en fait, la réaction de la CNUC, du secrétariat de l'ONU, ça a été de demander aux militaires brésiliens, en fait, de venir pour faire violence, en fait. Pour faire violence sur ces représentants de populations autochtones qui étaient sur place, mais aussi sur la société civile. Il y a notamment... Yongo organise des mobilisations sur place. Et on a une de nos mobilisations, un matin, qui s'est fait perturber par les militaires brésiliens.
Ok. Donc, grosso modo, si on résume, ceux qui font n'ont pas le droit de vote.
C'est
pas le voix au chapitre. Il y a un peu de ça, David
et,
Pierre.
Et c'est certainement ce qui déconne aussi. On en reparlait des gouvernements locaux, de tout ce qui est politique publique qui se met vraiment sur le territoire, là où l'effet du changement climatique est ressenti. Ben c'est ceux qui ne sont pas en fait aux tables de négociation. On reste dans ce schéma où c'est les nations.
Est-ce que ça peut être une revendication? Alors, je ne sais pas.
Mais ça l'est.
Ouais, mais en tout cas, pas au niveau national et pas dans l'opinion nationale, que les pouvoirs locaux, que des corps constitués dont on parlait puissent avoir un peu voix au chapitre.
Il y a cet effort, notamment pour faire évoluer le multilatéralisme, la gouvernance mondiale, et avoir une meilleure implication de tout ce qui est acteurs non étatiques. On sait que c'est de facto le cas avec les intérêts économiques, parce qu'ils ont le pouvoir économique d'infiltrer ces organes de gouvernance. Par contre, la société civile, les associations, les jeunes, les femmes, les minorités, et les gouvernements locaux, accessoirement, en fait, ils n'ont pas les mêmes moyens.
Il y a des années
de lutte derrière pour
exister. Parce que je ne sais pas qui me disait ça dans la composition de la délégation française, ce serait intéressant de la regarder à la loupe. Si j'ai bien compris, il y avait quand même une présence des lobbies pétroliers d'une manière éhontée. Quoi.
Alors, est-ce que je peux dire quelque chose?
Ah, bien sûr, Marc.
Mais... Bon, la CNUC a publié la liste provisoire des personnes, les participants qui s'étaient inscrits. Donc il y a une liste définitive, mais c'est pas les personnes nommées. Alors que la liste provisoire, il y a tout le monde. Et donc on peut voir les noms pour chaque pays, donc on peut savoir qui fait quoi. Et Carbon Brief a analysé, la France, c'était le sixième plus grande délégation, hein,
ouais.
580. Ouais.
Et je vais me permettre...
Et parmi eux, des multinationales, non?
Oui, je pense.
Mais en tant qu'ONG, très souvent, parce qu'ils ont des ONG qui travaillent avec les multinationales pour pouvoir...
Ou même sans se cacher derrière le statut d'ONG, hein, clairement il n'y en a pas besoin, le gouvernement français est très très à l'aise avec l'invitation de personnes qui se font condamner assez régulièrement pour greenwashing, des choses comme ça, des entreprises
ministre,
comme Total
Energy,
Schneider Electric
Barbu,
aussi,
là,
qui était présent très très régulièrement sur le pavillon France, tel point qu'il y a eu plusieurs questionnements d'ailleurs allegedly, mais certains conflits d'intérêts par rapport au pavillon France, qui est un pavillon qui est sur place du coup en zone bleue, qui demande des financements en fait exorbitants pour avoir un espace dans la COP, et donc on parle vraiment en centaines de milliers d'euros. Et donc là, on va retrouver certaines entreprises qui vont être très régulièrement mises sur les panels, par exemple.
D'accord.
Schneider Electric, que je mentionnais, qui a été bon voilà, bon. Très présent et qui est, on ne leur enlève rien, mais
c'est pas de la censure, mais là je suis obligé de résumer parce que le temps tourne. La question que je me posais, c'est Monique Barbu, elle intervenue comment? Est-ce que, parce que moi je suis surpris,
la ministre,
bah, oui, c'est vrai qu'elle est d'une discrétion presque inquiétante. Son agenda est même pas publié. Le mois qui avait une rubrique sur l'agenda de, je suis foutu quoi. Je suis au chômage technique depuis à peu près un mois. Allez, en deux mots, parce que il faut qu'on coupe l'émission.
En deux mots sur Madame Barbu et la délégation française de manière générale, parce que j'ai rien contre Madame Barbu en tant que personne. Moi, j'estime que l'ambition, elle n'était pas présente, qu'il y avait des lignes directives qui avaient été données par le gouvernement en amont de cette COP qui ont empêché et qui ont bloqué certaines de ces négociations, notamment des négociations sur lesquelles j'ai travaillé. Et voilà.
Comme
moi,
par exemple.
On n'a plus le temps, Ben.
Le programme de transition juste. Qui a été bloqué par la délégation française.
Voilà. Donc, je suis désolé, on arrive à la fin de l'émission.
C'est notre tour.
Allez, David Pierre, 30 secondes.
Sur une micro-touche positive, nous, ce qu'on a vu aussi, c'est la première fois que les gouvernements locaux étaient intégrés à la délégation officielle française. Ça, on bataillait pour, et cette fois-ci, c'était le cas. Donc, clairement, il y a des reculs, clairement, il y a un manque d'ambition. Il y a aussi des micro-avancées, il ne faut pas cracher dessus, parce que c'est grâce à ça qu'on met le pied dans la porte.
Oui, mais moi, je veux un bilan des avancées positives, des pouvoirs locaux et des cahiers de doléances des jeunes, et on va essayer de voir si on peut pas faire un truc ensemble.
Mais ce qu'il faut se dire, c'est que tout ne s'arrête pas là. Oui. Et c'est un processus.
Voilà, de toute façon, le prochain
coup... Il y a quand même aussi une avancée pour la transition juste. Il y a un mécanisme. Enfin, ils disent qu'ils vont établir un mécanisme pour la transition juste. Donc ça, c'est une première. Donc à faire, mais au moins, c'est dans les textes.
Bon, les gars, vous m'envoyez une petite note avec tous les points positifs et on en reparle la semaine prochaine parce qu'on aura encore une émission sur le climat. Prendre du recul avec les COP, mais justement, peut-être vous pourrez intervenir. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas, demain, à la même heure, c'est Au cœur du tango, une émission de Nathalie Perrin, une toute nouvelle émission de Nathalie Perrin. Et ben, on va l'écouter aussi. Hein. On n'est pas. Moi, je suis pour la danse. Hein. Bon, en tout cas, bonne semaine à tous. Vous m'en direz des nouvelles. Et puis, à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Et puis, merci à tout le monde. J'ai encore oublié tout le monde.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.